Le dernier quart d'heure de ce 6-9 de l'été, on commence avec vous Jean-Philippe Ballas pour la revue de presse. Vous nous parlez d'Émilienne.
Émilienne Moreau, dont je découvre le destin à peine croyable ce matin sur le site du Monde. Émilienne Moreau, la Jeanne d'Arc du Pas-de-Calais, héroïne de 14-18, puis de la Résistance. Vous la verrez en photo sépia, cheveux noirs, sourire timide. On se dit qu'elle semble bien inoffensive, cette gamine de 17 ans. Et pourtant, c'est elle qui balance des grenades à l'ennemi, qui tire au pistolet, qui se déguise pour renseigner les alliés. Elle qui raconte aussi la mort de son père. Terrassée par les angoisses et les privations, elle récupère des planches pour lui faire un cercueil et une brouette pour le porter jusqu'au cimetière. Existence dramatique, héroïque, sous la plume de Luc Brenner, Émilienne Moreau qui sera désignée des années plus tard compagnon de la Libération pour sa chevalerie exceptionnelle, dixit le général de Gaulle. L'une des très rares femmes décorées, elle n'était que 6, dont 4 à titre posthume pour plus d'un millier d'hommes. Alors je l'avoue humblement, j'ignorais tout de la vie d'Émilienne Moreau, disparue en 71 à l'âge de 73 ans. Mais je ne suis pas le seul, manifestement. Elle fait partie des oubliés de l'histoire, constate Le Monde, qui entame aujourd'hui une série de portraits. Émilienne Moreau n'est plus tout à fait dans l'ombre.
La Résistance aussi, en 2021.
Avec celui qui continue à filmer sa ville et son peuple. Dans Libération, le témoignage d'un journaliste de 36 ans, il s'appelle Oujatoullah Zia, et il a fait le choix de rester et de travailler chez lui à Kaboul. Et tant pis si sa rédaction est fermée, tant pis si son patron est parti. Je veux témoigner, dit-il, pour ne pas rester à ne rien faire, parce que c'est là, dans la rue, que j'ai le moins peur, mais c'est là aussi que je perds tout espoir. Et comment en vouloir à ceux qui fuient? Prenez Jawid. Il n'y a pas si longtemps, il était un tout jeune et fier colonel, membre de l'unité d'élite de la police afghane, de ceux qui combattaient les talibans. Oui, mais ça, c'était avant. Avant qu'il ne monte en catastrophe dans cet avion de l'armée française. Parce que sinon, dit-il, sinon il m'aurait découpé morceau par morceau. Et le voici ce matin dans un hôtel de la banlieue parisienne à vous montrer l'épais dossier qu'il trimballe en permanence. Des photos, des documents, tout ce qu'il reste de la vie qu'il vient de laisser là-bas avec son uniforme. C'est le Parisien aujourd'hui en France qui vous raconte l'arrivée des premiers réfugiés qui trouvent que les Français ont l'air chaleureux et qui se précipitent sur la moindre prise de courant pour charger leur téléphone portable, garder le contact avec les amis de Kaboul. Dans Sud-Ouest, justement, le cauchemar d'un jeune étudiant afghan pris au piège dans la capitale. Parce qu'en vrai, c'est en Dordogne qu'il vit et travaille. Oui, chez son oncle, près de Périgueux, avec son titre de séjour. Censé commencer des études de médecine à la rentrée, il était parti à Kaboul cet été pour dire bonjour à la famille. Depuis, il tente désespérément d'atteindre l'aéroport. Il dit qu'il a reçu des coups de fouet et son oncle est très inquiet. Une histoire de déraciné aussi, dans le journal du Centre cette fois. Il s'appelle Georges, il vit dans la Nièvre. Georges vient d'avoir son bac et rêve d'un BTS. Seulement, Georges n'a toujours pas de carte de séjour. Lui qui a quitté l'Angola il y a 4 ans, qui ne parlait pas un mot de français, il se bat, il est exemplaire, il n'est pas récompensé. S'énerve Stéphanie, celle que Georges appelle sa deuxième maman. Alors en attendant, Georges joue au foot un peu, pour oublier les jours sans, et en espérant.
Le football, et puis son côté sombre.
Insupportable, le gros titre en première page de l'Équipe ce matin. Insupportable en effet ces images de violence lors du match Nice-Marseille, une soirée de fiasco. Tout simplement pathétique, écrit Nice Matin. Alors bien sûr, la Provence et la Marseillaise en parlent aussi, mais ce n'est pas le sujet que vous verrez à la une, non, parce qu'il y a plus grave. Ce cauchemar sans fin, ces règlements de compte, cette guerre du deal, 3 jeunes tués encore ce week-end, la drogue, ce fléau qui assassine, titre la Marseillaise, et Frédéric Chetain dans la Provence, qui ne veut plus regarder ailleurs, se dire « oh, tant que ça se passe entre eux ». Qui accuse aussi les consommateurs de stupéfiants, car sans demande, pas de trafic, et qui réclame, selon l'expression si souvent consacrée, une vraie politique globale pour ces quartiers, enfin, pour que plus jamais un gamin n'accepte cet argent facile, au risque de mourir à 25 ans. Mais il y a aussi des histoires de résilience dans le journal. Tenez celle de Capucine, par exemple, que vous pourrez lire dans Ouest France. Capucine, jeune femme d'une vingtaine d'années, qui courait beaucoup trop tout le temps, 60 à 80 km par semaine, et qui faisait beaucoup trop attention à ce qu'elle mangeait tout le temps, chassait la moindre calorie jusqu'à s'effondrer. Les symptômes évidents de l'anorexie. C'est l'entraîneur de Capucine qui alerte la famille, qui va l'entourer, la soigner patiemment à la faveur du confinement. Oui, parce que j'étais encadré, comme si soudain je me déchargeais en donnant aux autres la notice de ma maladie. Aujourd'hui, Capucine va mieux, même si elle reconnaît que parfois c'est compliqué. Elle en a fait un livre pour les autres. Et j'ai jeté ma balance, dit-elle. Je ne sais pas combien je pèse, et c'est bien mieux comme ça. Résilience, pareil, dans les pages du Figaro, au pied de la falaise d'Étretat, avec la grande passion de monsieur Christophe Le Boucher, expert reconnu de la pêche à la tatte. Qu'est-ce que c'est la tatte? C'est tâter la roche, plonger la main sous l'eau pour en tirer des homards, des tourteaux. Alors Christophe connaît bien toute la zone par cœur, agile en toutes circonstances. Ah oui, juste un détail, Christophe est aveugle. Un personnage qui semble flotter en dehors du monde, dit un voisin. Christophe raconte son enfance, difficile, les beignes de son père, mais son envie d'en sortir, de voir le monde à sa façon. Quand on est aveugle, dit-il, il n'y a que le calcul et l'instinct.
La lecture des journaux à sa façon, Jean-Philippe Ballas, merci à vous.
France Inter.